À voix nue, René Fleming. Une émission proposée par Alia Aglan. Second volet, les années d'apprentissage. Et alors les études, la Juilliard School par exemple, quand est-ce qu'on y entre? Vers 23 ans, 25 ans?
Oui, oui, la Juilliard a été plus tard. Oui. J'ai commencé une petite école, université d'État, vraiment dans le nord de New York. Et c'était formidable parce que j'ai eu la bonne chance d'avoir une professeure de chant qui était extraordinaire. Et après, j'étais à Eastman School of Music, qui est un conservatoire à Rochester qui est très connu, très très respecté. Et enfin, c'était Juilliard où j'ai trouvé vraiment mon professeur de chant qui était avec moi à 16 ans avant d'aller mourir il y a un an.
Elle est morte il y a un
oui.
an. Oui. Parlez-nous d'elle parce que je crois que c'est une personne très importante.
Très importante. Nous étions ensemble 16 ans et elle a eu 96 ans quand elle est morte. C'était étonnant de tout le monde parce qu'elle a caché vraiment son âge. Elle est une force. Elle est une force incroyable. Et j'ai eu par exemple un mauvais temps il y a 3 ans, il y a 4 ans, où c'était elle avec son volonté, c'était elle qui a dit tu vas chanter encore, tu n'arrêtes pas, tu as la chance, tu as le talent, et c'était elle qui m'a poussé vraiment.
C'est Beverly avec... Johnson.
Beverly Johnson, oui. Et mais elle m'a donné beaucoup, pas simplement les techniques, mais elle m'a pris comment on peut se garder dans cette carrière où on veut toujours, on a toujours beaucoup de pression, beaucoup de choses qu'on doit faire. C'est pas facile. C'est simplement pas facile de chanter bien. C'est pas facile d'avoir une carrière si grande pour faire les choix. Qu'est-ce qu'on veut faire dans 5 ans, dans les plans, le répertoire qu'on doit choisir. On sait que c'est difficile parce qu'on sait que on a perdu beaucoup de sopranes dans les derniers 10 ans. Ils ont arrêté, ils devaient arrêter très jeunes, beaucoup de sopranes.
Pourquoi? Parce qu'elles forçaient leur voix?
Et on ne sait exactement pourquoi. Il y a beaucoup de raisons. Peut-être on a forcé la voix, on a choisi un répertoire qui était peut-être trop grand, trop dramatique, sans le tessiture très bien, les problèmes émotionnels, les problèmes avec la carrière. On ne sait exactement pourquoi. C'était qui il y a 5 ans quand on attend que c'est moi aussi que j'étais finie il y a 2 ans.
On a dit que
je chante encore et j'espère chanter encore de plus. Mais on ne sait jamais. C'est vraiment fragile. C'est un instrument fragile. C'est un instrument intérieur qui est fait par les muscles qu'on ne peut pas contrôler, involontaires, les muscles involontaires. Et c'est un instrument qui est vraiment touché par toutes les choses qui ont fait humaines. C'est pas un piano. Si c'est un problème avec le piano, on peut acheter un autre piano.
Tout ce qui influe sur votre vie peut influer sur votre voix.
Et le corps aussi qui est fragile. Hein. Si on est malade, si on a des problèmes, les autres problèmes, ça peut faire un problème avec la voix.
On a effectivement des chanteuses qu'on lance peut-être un peu trop tôt aujourd'hui, c'est-à-dire qui forcent la voix avant peut-être que la voix ait atteint sa maturité naturelle. Oui. C'est peut-être la grande différence avec les cantatrices.
C'est une hypothèse. C'est intéressant. C'est une chose. Il y a beaucoup de choses intéressantes qu'on ne pense pas jamais, toujours. Une des choses, est-ce que ce temps où on peut faire les vols et faire les voyages dans tout le monde, tous les jours, est vraiment récemment. C'est justement, c'est depuis 50 ans vraiment qu'on peut faire ça. En avance, on était installé dans une vie 6 mois, 7 mois. On a chanté, on a eu une saison à Paris, une saison à New York, et on n'a pas fait ça. On est avec la traîne peut-être. Et c'était vraiment une vie beaucoup plus calme.
Oui, et du coup, les carrières étaient beaucoup plus localisées. C'est-à-dire qu'on était, par exemple, on avait une renommée qui pouvait être européenne et pas forcément des deux côtés de l'Atlantique.
Des deux côtés, oui, c'était fait comme ça. On a chanté aussi toutes les nuits. Et pour moi, aujourd'hui, c'est pas possible d'imaginer comment faire ça. Mais
j'imagine chaque soir.
Chaque soir. Et je pense que on a chanté avec une voix un peu plus légère ou beaucoup plus légère. Je
une
sais
voix
pas
de
sûr.
Tête. Hein?
De tête. Ah, bravo. Ah, vous connaissez bien. Vous connaissez vraiment bien. Et je pense qu'on a chanté vraiment comme ça. Et on sait aussi que les orchestres n'étaient pas si fortes. Qui sont, j'oublie, les instruments modernes sont beaucoup plus forts et plus hauts. Toutes les deux choses créent des problèmes pour la voix. Et les théâtres, aujourd'hui, sont aussi beaucoup
immense,
plus grands.
Oui.
Immense. Les théâtres en avance a eu peut-être, le plus grand a eu une place de 800. Et maintenant, on doit chanter dans les théâtres avec 4000.
Et donc, du coup, la voix doit gagner en puissance.
Oui.
À chaque fois, plus
exactement.
De puissance.
Oui, c'est vraiment, c'est toutes les choses qui et il y a 100 ans, on a une vie, normalement, pas plus de 50 ans. Et maintenant, c'est, je ne sais pas, c'est, j'ai appris ça il y a 3 mois, et c'était intéressant qu'on va avoir le average, je ne sais pas.
Moyenne.
Moyenne. Mmh. Vie était de 50 ans. Et maintenant, on veut chanter beaucoup plus long. Plus lourd, plus long. Avec plus de force et dans tout le monde.
Dans le monde entier.
C'est pas facile, dans le monde entier. C'est pas tellement facile.
Alors revenons à vos années d'études. Parlez-nous de cette école qui est très réputée, la Juilliard School. C'est l'une des très grandes écoles pour les artistes aux États-Unis.
Oui, ça mérite. Mais la chose la plus importante pour nous est vraiment le professeur du chant. On peut être dans le meilleur conservatoire du monde, mais sans un professeur de chant qui passe bien avec l'étudiant, ça ne fonctionne pas. Et Juilliard, j'ai eu la bonne chance d'être avec Beverly Johnson, et j'ai eu aussi la bonne chance de faire des opéras. Et toutes les choses m'ont aidé beaucoup parce que c'était le premier an que j'étais à New York et d'être dans la grande ville. Je devais travailler une firme d'avocat pour avoir un peu d'argent pour habiter vraiment.
Pour
vraiment,
payer les
New
études.
York, non, c'était pas nécessaire. Ça, c'était la chose la plus importante pour moi, pour payer l'appartement et tout, toutes les autres choses. Mais parce que j'étais en scholarship, c'était libre. Et j'ai commencé à apprendre les langues étrangères, la diction, comment on peut chanter dans les autres langues. C'est aussi important de savoir que nous qui parlons l'anglais devons chanter dans toutes les langues étrangères d'un moment. Je presse jamais en anglais.
Oui, c'est énorme le répertoire.
C'est énorme. Oui. Et nous avons aussi la marchance d'être américaine où on apprend pas les langues étrangères. Parce que nous sommes isolés, c'est un pays très grand, on n'a pas besoin. Et c'est vraiment un avantage, je pense, d'être européenne, où on vraiment a cette sens des autres cultures, les autres langues. On est une éducation vraiment mieux. Et il y a un autre avantage, et c'est que on n'est pas chez nous, on ne peut pas dire à. Tu parles allemand, tu peux chanter que le répertoire allemand. On peut avoir une variété dans le répertoire.
Et donc, vous chantez dans combien de langues? Dans 8 langues?
8 langues.
Une dizaine
de
langues?
Je ne suis pas sûre exactement, mais je pense que c'est 8.
Et donc, cette diction, vous l'avez apprise déjà à la Juilliard School?
C'est très important. Et... ils ont maintenant c'est mieux maintenant parce qu'ils ont des programmes pour aider les étudiants avec la carrière, avec pour comment est-ce qu'on peut trouver un agent, comment est-ce qu'on peut commencer, avec les choses du scène, ballet, danse, comment être un peu actrice. Mais quand j'ai fait mes études, ça a commencé justement avec des choses comme ça. C'était pas très en avance.
Donc vous avez eu un peu une formation complète quand même.
Pas uniquement
musical.
Oui, c'était bien. Non, j'ai eu une éducation extraordinaire. Surtout parce que j'ai eu cette chose à l'allemand. J'ai eu la chance de faire mes études à Francfort.
Oui.
Parce qu'avec ça, j'ai pris la langue allemand. Ça, c'est la langue que je parle vraiment le plus bien, le meilleur.
Et ce séjour à Francfort a duré combien de temps?
Un an, avec Annie Nonger.
D'accord. Et c'est une bourse Fulbright qui vous
Fulbright, exactement. C'était incroyable.
Ça veut dire que c'est donné aux meilleurs étudiants, tout de même. C'est une opportunité qui est donnée aux meilleurs étudiants.
Oui, oui. Et c'est vraiment difficile à avoir. Mais pour moi, c'était très important. Parce qu'on a appris vraiment cette langue. Et avec 22 ans, j'ai commencé avec 23 ans, je pense qu'on a... jamais pensé que je chanterais à Strauss, par exemple. Jamais, parce que j'ai une voix très petite et j'étais très jeune. Et j'ai chanté des choses comme Susanna, Nostro Figaro. Et c'est simplement maintenant que je sais. Je pense que c'était vraiment la bonne chance d'avoir cette bourse. Parce que comment est-ce qu'on peut chanter le répertoire le plus grand dans les récitals, naturellement... On a Abraham Strauss, Schubert, sans avoir la langue.
Oui, ça sert.
Dans l'opéra, la langue française est plus importante pour moi, parce que j'aime bien chanter en français.
Et vous avez également fait une masterclass avec Elisabeth Schwarzkopf, qui était la grande...
Une semaine. Une semaine, tous les jours, une semaine.
Et c'était pendant cette période-là, pendant le séjour en Allemagne.
Un peu après.
Parce qu'elle était vénérée, c'était la chanteuse idéale, typique.
Oui, je suis un grand fan encore d'Elisabeth Schwarzkopf.
On l'est tous.
Elle a changé vraiment comment chante Strauss, l'opéra. Parce qu'en avance, il était une chose comme le Mozart, très vocale. avec les voix pleines, les voix jolies. On a chanté vraiment les Strauss, les rôles comme le maréchal. Avec Elisabeth Schwarzkopf, elle a changé vraiment le style de comment chante les opéras de Strauss, parce qu'elle en a fait comme beaucoup plus dramatique, beaucoup plus cinéma, comme une chanson, comme une lead. Et moi, j'aime bien ça parce que c'est plus intéressant. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire avec les mots, avec le déclamation. C'était vraiment extraordinaire qu'est-ce qu'elle a fait avec le style.
Une maîtrise absolue.
Oui.
Presque trop forte.
Et c'est une question de goût, mais je préfère ça. J'aime bien qu'est-ce qu'elle a fait.
Alors, racontez-nous cette masterclass. Je crois que ça a été important dans votre...
La masterclass a été très difficile, je dois dire, parce que ça a changé tous les jours. Un jour, j'étais bien, et le prochain jour, c'était nul.
C'est-à-dire qu'elle était un peu tyrannique?
Ah oui, oui, très tyrannique. Et j'étais trop jeune. J'étais trop jeune de comprendre. On doit vraiment être avancé, de comprendre toutes les choses qu'elle veut dire, et d'avoir la force de travailler avec quelqu'un qui est comme ça. Mais enfin, ça a duré 2 heures. Après 2 heures, j'étais très confusée aussi. Ça, c'est le problème avec les classmates. Parce que les professeurs veulent dire quelque chose, beaucoup de choses qui sont peut-être trop avancées pour l'étudiant. Et ça dure une semaine ou un jour ou 2 heures. Et le professeur n'est pas là. Dire une semaine plus tard, c'est juste ce que tu fais ou c'est pas juste. Et ça, c'est le problème parce que j'étais très confusée après. Et ça a duré 2 ans.
Mais c'était... Parce que c'était trop tôt ou parce qu'elle avait un caractère et peut-être...
Elle m'a donné beaucoup de choses qui étaient techniquement très fort, mais peut-être pas juste. Et
pas adapté à votre voix.
Exactement, c'était trop difficile. Mais elle m'a donné 2 choses qui étaient très importantes. Cette idée de couper la voix dans le médium cover. C'est une idée qui était plus tard importante. Et l'autre chose était qu'elle m'a dit, Renée, tu es responsable pour la beauté de la voix. Parce que je n'ai pas eu une voix belle en avant.
On ne peut pas vous croire.
Non, c'était une voix serrée et trop bruyante.
Trop tendue.
Les dents aiguës n'étaient pas du tout belles. Et j'ai pensé en avant simplement de faire une son avec, qui était bien fait, avec santé. Et c'était elle qui a dit, non, tu dois trouver une couleur qui est belle. Et c'était elle qui m'a donné l'idée de chercher les autres couleurs, de chercher les autres possibilités. Maintenant, après je l'ai trouvé, maintenant je cherche aussi les couleurs qui ne sont pas belles, pour avoir la variété d'expression.
La variété, oui. Ça me rappelle ce poème d'Yves Bonnefoy qui parle de la voix grise de Kathleen Ferrier. Vous le connaissez,
ce poème? Kathleen Ferrier. C'est pas simplement une belle voix, c'est le cœur. Elle chante avec du cœur. Elle chante. C'est dommage que la carrière n'a pas duré plus long.
Et alors, pour revenir à Elisabeth Schwarzkopf, elle disait que votre voix était trop libre et trop ouverte. Qu'est-ce que ça signifie comme cette sorte de critique assez intéressante?
Ma voix?
Oui.
Trop libre et trop ouverte. Mais c'est pas possible d'avoir une voix qui est trop libre et trop ouverte, parce qu'ils sont tous les deux choses qu'on veut entendre. Ça suggère que c'est une voix libre et c'est une voix qui peut énoncer les tones.
Oui, c'est bien
ça. Et ça
ce
reste pas toujours. Je vous jure que dans 5-10 ans, c'est fini. C'est beaucoup plus de travaux à chanter.
Hein. Donc en fait, c'est un vrai compliment. Plutôt.
C'est un vrai compliment, oui, pour moi. Moi, j'aime bien entendre les voix qui sont libres. C'est pour ça qu'on travaille.
Mais du coup, est-ce que pour Elisabeth Schwarzkopf, c'était pas une sorte de critique un peu à l'envers? C'est-à-dire qu'elle aurait aimé que cette voix soit plus contenue, parce que la sienne est quand même...
C'est aussi une question de goût.
Oui, parce que la sienne est tellement hyper maîtrisée qu'elle elle perd aussi de son naturel.
Mais je pense qu'Elisabeth Schwarzkopf n'a pas chanté bien techniquement, naturellement. elle devait trouver un chemin
et voilà.
où elle pourrait faire des choses qu'elle pourrait faire. Mais elle a trouvé un chemin qui était un peu... On parlait toujours d'elle avec le mannerismus, comme elle a chanté avec mannerismus. Mais je pense que c'est... Elle a chanté comme elle pourrait chanter. Et avec l'intelligence qu'elle a eue, l'interprétation qu'elle a eue, on a créé un goût pour exactement qu'est-ce qu'elle a fait.
Mais alors, la question que je me pose, c'est existe-t-il une manière différente d'enseigner le chant en Europe et pour dire en Allemagne? Existe-t-il une manière américaine qui, à mon sens, privilégie beaucoup plus le naturel de la voix et tend à le conserver beaucoup plus?
Oui, c'est...
Est-ce qu'il y a deux méthodes, vraiment?
Mais oui, c'est difficile à expliquer.
Parce que, comme
en
vous
français,
avez...
je vais essayer. Mais la manière américaine, il y a des choses positives et des choses négatives. Négative, c'est que tous les Américains, on dit que tous les Américains sont les mêmes. Ils n'ont pas un caractère très original.
Vous voulez dire qu'on fabrique les mêmes voix aux États-Unis?
Oui, exactement. Et c'est pour ça qu'on peut dire que c'est trop ouverte. Et ça, c'est pas un compliment. Mais c'est aussi qu'on est bien, on a une éducation très bien chez nous. On est bien schooled. On est well schooled. Chez nous, on est aussi ouvert d'avoir les possibilités à faire beaucoup de choses différentes sur scène. Mais avec ça, on peut perdre la personnalité. Ça, c'est peut-être le problème. La première audition que j'ai fait ici à Londres, j'ai eu le compliment que j'aime bien Renée Fleming, elle ne sent pas américaine. C'est une voix qui n'est pas vraiment américaine. Ça, c'était le compliment.
Parce que vous aviez acquis une partie de la culture européenne en vivant.
Oui, ma voix, je pense qu'on peut attendre peut-être que j'ai la famille tchèque. C'est une voix un peu. On me dit que c'est une voix un peu ost.
De l'Est.
De l'Est, oui, merci. Et ils sont des choses qui est un peu difficile.
Et alors, et la manière européenne, en quoi elle serait différente de cette façon?
Ça, c'est moins, peut-être moins raffiné, très souvent. Pas maintenant, on ne peut pas... On peut parler de ça simplement il y a 10 ans.
Oui, à l'époque où vous avez...
Aujourd'hui, c'est vraiment... on a aussi la globalisation du chanteur.
De l'enseignement.
Exactement. Parce qu'on a Brent Havel, on a Nathalie Dessay, on a beaucoup de contratistes extraordinaires dans tous les pays. Mais il y a 10 ans, c'était un peu différent. On a dit que les contratistes européennes ont eu beaucoup plus de personnalité, plus de... interprétation, la possibilité, mais peut-être pas avec une technique si homogénée.
Mais est-ce qu'il existe une vraie culture de l'opéra aux États-Unis? Comment? Parce qu'en Europe, c'est très anciennement ancré, c'est-à-dire c'est
oui.
vraiment dans la culture européenne.
Oui.
C'est aux États-Unis, c'est beaucoup plus récent. C'est
récent. On peut voir vraiment comment. Il y a beaucoup. J'étais justement en Australie. On peut voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont les mêmes en Australie que chez nous. Parce que le pays, les gens, la culture, tout est neuf. Et ici, on sent vraiment que le public, les personnalités de l'écouteur, c'est vraiment vieux. On peut
différent.
Voir, c'est compliqué. C'est,
ici, il y a un public fervent d'opéra.
Oui.
Il y a des fous d'opéra.
Il y a une différence, oui.
Aux États-Unis, quel
on
public?
On est ouvert de tout. On aime bien l'underdog, comme on dit. Les gens avec des problèmes, on aime bien ça. Et on est... vraiment positive, on reste toujours positive. Pas dans les grandes villes. New York est différent. New York est vraiment est plus européen. New York est vraiment une autre chose.
C'est-à-dire que le public du Met est plus comparable au public européen?
Oui, oui. Ça dépend de la nuit. Si on est des touristes ou si on est vrai public de New York. Mais oui, moi, c'est très sophistiqué. L'opéra chez nous est très, très populaire maintenant. Toutes les petites villes ont un théâtre d'opéra. Et il y a 30 ans, ça n'existait pas. Pas du tout. On a eu simplement le Met qui a fait les tournées. C'est très populaire.
Renée Fleming, à voix nue, par Alia Aglan. Réalisation, Serge Ristich, Claire Levasseur et Claude Giovannetti.